Seigneur, merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce, pour ton amour. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as délivrés. Et nous avons la vie, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Nous étions perdus, nous étions dans le désespoir, nous étions dans la tristesse, Seigneur. Nous étions dans le péché, nous étions, Seigneur, condamnés, Seigneur. Mais tu t'es révélé à nous, Seigneur, tu nous as donné un nom. Tu as fait de nous tes enfants. Nous qui étions un peuple, Seigneur, loin de toi, Seigneur. Tu as fait de nous une nation sainte, un peuple que tu t'es acquis, Seigneur, pour que nous puissions célébrer ta gloire. Merci pour ta fidélité envers nous. Nous te recommandons ta parole, Seigneur. Nous prions pour que, Seigneur, ta parole puisse nous encourager, que ta parole soit la source de notre foi encore ce soir. Tu vois toutes les difficultés, tu vois tous les combats, toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles nous sommes soumis, Seigneur. Et nous avons besoin de ta parole, Seigneur, pour résister, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions recevoir ta parole avec foi, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 5. Il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Amen. Voilà la parole du Seigneur. Nous avons lu qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Et cet homme, on ne sait pas quelle était sa maladie, mais on nous dit que ça fait longtemps que cet homme souffrait. Et il a été emmené à cet endroit pour espérer peut-être qu'il puisse, lorsque l'eau est agitée par un ange, qu'il puisse entrer dans l'eau et être guéri. Et la question que je me suis posée, c'est que pourquoi cet homme est à cet endroit-là? C'est qu'il espérait avoir la guérison. Et on nous dit que lorsque le Seigneur passe, il le voit couché. Le Seigneur va vers lui et lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme répond, verset 7, « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » La question du Seigneur est claire, elle est précise. « Veux-tu être guéri ?» La réponse aurait été, oui, normalement, je ne pense pas que cet homme aurait dit non. Mais pourquoi Jésus pose cette question à cet homme? Jésus pose la question à cet homme parce que dans la détresse de cet homme, dans la souffrance, dans la durée, dans tout ce qu'il a pu vivre, dans la déception du fait qu'à chaque fois qu'il prend un peu de force pour descendre dans la piscine, un autre le devance, et bien, toutes ces choses ont fait que cet homme a perdu quelque part espoir, finalement, d'être guéri. Et cet homme vivait dans une sorte d'échec, dans une sorte de... Donc, il a accusé le sort en quelque sorte. Finalement, c'est comme ça. Je suis là, mais peut-être qu'un jour, je guérirai. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est « Sortons de la résignation ». La résignation, c'est quoi? La résignation, c'est le fait, entre guillemets, d'accepter une situation qui nous tombe dessus, ou alors de subir une situation sans même espérer qu'il y a une délivrance derrière, sans même espérer qu'il y a une solution, parce que le Seigneur lui pose une question claire. Est-ce que tu veux être guéri ? Il dit, maître, je n'ai personne. La réponse aurait été, maître, oui, je veux être guéri. Mais la souffrance de cet homme a fait qu'il s'est résigné en quelque sorte. Il s'est dit, bon, c'est comme ça. Et cette attitude n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Cette attitude n'est pas bonne pour un chrétien. Se résigner, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est subir quelque chose sans même faire un effort pour s'en sortir. On se dit, c'est comme ça. Et dans le monde, il parle de fatalité. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une force au-dessus qui a décidé, quoi que tu fasses, les choses ne changeront pas. C'est ça la fatalité. C'est ça la résignation. Et cet homme était dans cet état. Peut-être que quand il est arrivé fraîchement, nouvellement à cet endroit, il était motivé, il avait encore un peu de force, il avait de l'espoir que les choses allaient changer pour lui, que ça serait son tour. Mais au fur et à mesure que le temps passe, finalement, il voit que les autres ont des gens pour les aider, et bien il se dit, et bien c'est fini pour moi. Et c'est étonnant parce que c'est écrit, lorsque Jésus passe, l'homme est couché. Donc, il n'espère même plus la délivrance du Seigneur. Il n'espère même plus que le Seigneur puisse agir dans sa vie. Il y a des épreuves que nous pouvons vivre qui vont durer quelque temps. On a de la force. On a encore des ressources. On lit encore la parole de Dieu. On a encore des encouragements. On écoute une prédication, on dit « ça, c'est pour moi ». Mais lorsque cela est soumis à la durée, au temps, les choses ne sont plus les mêmes. On se rappelle dans Luc 18 où le Seigneur dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» Pourquoi il dit ça ? Parce que cette femme, dans Luc 18, qui avait affaire au juge inique, on nous dit « Pendant longtemps, cette femme allait voir le juge pour demander justice. » Pendant longtemps. Et ce passage nous dit que Jésus nous montre que par ce passage, on doit prier, mais pas seulement prier, mais persévérer. Et voilà 38 ans que cet homme est malade. À chaque fois qu'il y a l'occasion, il n'y a personne pour l'aider. Et cet homme a fini par se résigner, par dire, bon, c'est comme ça. Je ne peux rien. J'ai prié pour la conversion de mon mari. Je priais pour la conversion de mes enfants. J'ai jeûné. Je fais ce qu'il fallait. Mais je vois que les choses s'empirent. Et bon, on laisse comme ça. Et le danger de la résignation, c'est que ça amène finalement à perdre totalement la foi en Dieu. Lorsqu'on reste dans l'attitude de résignation, eh ben, on ne prie même plus parce qu'on se dit, à quoi bon prier ? C'est comme ça. Pourquoi prier ? C'est ça le danger de la résignation. Et en tant que chrétien, on peut se retrouver dans des situations où on est comme résigné. Nous allons voir l'exemple d'un homme, un grand de Dieu, un homme qui craignait Dieu, qui s'est retrouvé dans une situation similaire, qui s'est résigné face à ce qu'il a vécu. Donc, lisons rapidement dans Genèse 45. Dans Genèse 45. Donc on peut lire à partir du verset 25. Genèse 45, verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vis encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » C'est l'histoire de Jacob. Et Jacob était le père de Joseph et celui Israël, celui à qui Dieu a fait de très grandes promesses. Et plus loin, avant cet épisode, les frères de Joseph viennent voir leur père pour dire « Voilà, notre frère a été tué. » Et ils ont fait avec Ruben et tous les autres frères, ils ont fait un complot pour faire croire à leur père que Joseph, finalement, avait été tué. Et Jacob était quelqu'un qui aimait Dieu. Jacob était quelqu'un qui était proche de Dieu. Mais malgré cela, au fond de lui, il vivait avec une tristesse. Il vivait avec des questionnements. Pourquoi ? Mais pourquoi Dieu a permis ça ? Et même s'il est mort, mais pourquoi je n'ai pas vu mon fils ? Donc Jacob vivait avec toutes ces questions, tous ces questionnements au fond de lui. Et finalement, il a fini par se résigner. Il a fini par, entre guillemets, accepter. Nous allons voir après, il y a une différence entre la résignation devant une situation et l'acceptation d'une situation. Ce n'est pas la même chose. Quand on est résigné, c'est-à-dire qu'on vit la situation avec tristesse. On pense en quelque sorte que c'est comme si Dieu a mal fait les choses, il est injuste. C'est ça la résignation. C'est comme si Dieu est injuste dans le jugement qu'il a fait. On a l'impression que Dieu s'est trompé. Pourquoi ? Souvent, il y en a qui disent, mais pourquoi moi ? C'est toujours moi. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, c'est toujours sur moi que ça tombe. On m'a toujours dit, moi. La personne vit comme ça, dans la résignation, donc en disant, bon, les choses sont comme ça, c'est fini. Mais le but de notre exhortation, c'est de nous dire, même si la situation est telle qu'elle, qu'est-ce qui t'empêche de prier ? Qu'est-ce qui t'empêche de chercher la face de Dieu ? Qu'est-ce qui t'empêche de crier, de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pourquoi ? C'est ça la bonne attitude. Mais la résignation, c'est qu'on ne pose même pas la question, ou alors on a posé la question à Dieu, mais comme il n'y a pas de réponse, finalement, on ne prie même plus. On ne pose même plus la question à Dieu. On vit comme ça avec la tristesse. On est chrétien, on vient à l'assemblée, on chante, on loue Dieu, on glorifie le Seigneur, mais au fond de soi, il y a une tristesse. Je n'irai pas jusqu'à dire une colère vis-à-vis de Dieu, mais il y a une tristesse qui est toujours là. Et Jacob vivait avec cette tristesse-là. Il était proche de son fils Joseph. Joseph qui aimait Dieu comme lui. Joseph qui n'était pas dans le comportement de ses frères. Il y avait un attachement fort entre les deux. Et depuis tout ce temps-là, c'était dur pour Jacob. Et lorsqu'on vient lui dire, voilà, ton fils Joseph vit encore. C'est lui qui dirige le pays d'Égypte. Nous avons lu, la Bible dit que le cœur de Joseph est resté comment ? Froid. Le cœur de Joseph était fermé. Lorsqu'il entendait parler lorsque Jacob entendait parler de Joseph, son cœur était fermé. Il y avait de l'amertume. Il vivait finalement avec la résignation. C'est comme dans le monde, ils disent, il n'avait pas fait le deuil. Il vivait encore avec cette incompréhension dans le cœur. Je dis bien, il aimait Dieu. Mais finalement, lorsqu'on lui dit que Joseph est vivant, Jacob refuse. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu le ranima. Comme il était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, le Saint-Esprit est venu le ranimer. Et le but de notre exhortation, c'est que si nous sommes dans la résignation, on se dit, le coup du sort est tombé sur moi. C'est toujours comme ça. Les épreuves sur épreuves. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, par sa parole, qu'il veut nous réveiller. Pour te dire, réveille-toi. Tu peux encore prier. Tu peux encore louer Dieu. Tu peux encore parler à Dieu, demander à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Pourquoi ? Bien évidemment, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Mais nous avons la liberté de lui poser la question. Mais malheureusement, beaucoup vivent dans la résignation. Ils ont baissé les bras. Je suis chrétien de nom, c'est un boulot, c'est un titre, c'est un rôle que je joue. Alors qu'en réalité, ils sont résignés. Et ce n'est pas cette attitude que Dieu veut de nous. Jésus pose la question à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? L'homme dit, Seigneur, je n'ai personne. Le Seigneur lui dit, prends ton lit. Il a vu quand même que cet homme, parce qu'il était là, il s'attendait quand même d'une certaine manière à Dieu. Il s'attendait peut-être à être guéri, même si c'est sorti de sa tête, mais le Seigneur est venu vers lui. Pour nous dire aussi que le Seigneur vient vers nous aujourd'hui, pour nous dire que c'est possible. C'est possible. Nous lisons l'exemple d'une personne qui s'est résignée aussi devant une situation après plusieurs avertissements du Seigneur. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel au chapitre 3. À partir du verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car mon serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie, sur tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Voilà l'histoire d'Élie le sacrificateur. Et juste avant cet épisode, Dieu envoie un prophète. Il envoie une personne pour parler à Élie, pour lui dire, tes fils sont coupables devant Dieu. Voilà le comportement qu'ils adoptent, le comportement qu'ils manifestent aux yeux de tous. Ils méprisent ouvertement Dieu. Et la deuxième fois, Dieu parle au travers d'un enfant. Cet enfant, c'est Samuel qui était là, au temple, qui avait été consacré par sa mère pour servir au temple. Et Dieu parle à Samuel. Et Élie connaissait le fonctionnement de Dieu. Lorsque Dieu appelle Samuel, à plusieurs reprises, à trois reprises, Samuel va vers Élie pour demander, « Mais est-ce que tu m'as appelé ?» Mais Élie comprend, il dit, « La prochaine fois, si tu entends cette voix qui t'appelle, dis à Dieu de parler. C'est l'Éternel qui te parle. » Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur parle à Samuel. Il lui dit, « Va dire à Élie que j'ai décidé maintenant de frapper sa maison à cause du crime dont il est au courant et dont il est aussi coupable parce qu'il n'a pas réprimé ses enfants. » à cause de leur mauvais comportement. Mais quelle est la réaction d'Élie? Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Alors la question c'est, pourquoi Dieu a parlé à plusieurs reprises, a averti Élie? Le but c'était qu'Élie puisse prendre les dispositions. Comme on a lu, Dieu a reproché à Élie le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que Dieu ne frappe pas. Mais Élie n'a pas fait ça, par faiblesse pour ses enfants. Et là, Dieu parle encore, il dit, voilà, j'ai décidé, maintenant je vais frapper. Et la réaction d'Élie, c'est de dire, eh bien, que Dieu fasse ce qu'il a décidé. Or, lorsque Dieu a parlé ainsi, le but, c'était qu'Élie puisse se repentir devant Dieu, puisse reprendre ses enfants, puisse mettre leur vie, la vie de ses enfants, sa vie lui, à lui-même, en règle devant Dieu. C'était ça le but du Seigneur. Mais Élie n'a pas fait cela. Et on lui parle, au lieu de dire, parce qu'il était sacrificateur. Le sacrificateur, son rôle, c'est de prier pour le pardon du peuple. C'est de prier pour son propre pardon aussi, c'était son rôle. Mais voilà qu'on vient lui dire, Dieu va frapper ta maison. Il connaissait Dieu, il connaissait l'Éternel. Il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que Dieu est bon. Il sait que Dieu est amour. Il le savait, ces choses. On vient lui dire, Dieu va frapper. La seule réaction, c'est de dire, ah bon, qu'il frappe. Voilà la résignation. En quelque sorte, c'est comme s'il dit, ben, que Dieu fasse justice. Mais on voit par sa réponse qu'il n'est pas satisfait de la justice de Dieu. C'est comme si Dieu est injuste. Si Dieu me frappe, c'est comme si Dieu est injuste. Dans la réponse qu'il donne, c'est comme si, bon, comme il est Dieu, comme il est le Tout-Puissant, il est le plus fort, ben, qu'il fasse. C'est ça, la résignation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, au lieu de, Dieu nous a donné les moyens de prier, on a la parole de Dieu, on a tous les moyens pour nous repentir, mais on vit la situation, on dit, bon, voilà, il a déjà décidé, c'est comme ça. Certains vont dire, bon, c'est déjà écrit. Mais même si c'est écrit, qu'est-ce qui nous empêche de prier? Dieu avait décidé de frapper Ninive, n'est-ce pas? Dieu a décidé de frapper Ninive. Et lorsque Jonas a parlé, Dieu est revenu sur sa décision. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est bon. Il est juste dans son jugement. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais Dieu est amour aussi. Et la Bible dit que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il a donné des avertissements à plusieurs fois à Élie pour dire attention, 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 rien n'a été fait. Et la réaction d'Élie, plutôt que de s'humilier, d'aller vers Dieu pour dire Seigneur, c'est vrai, j'ai négligé. Il dit, bon, comme il est Dieu, qu'il fasse ce qu'il a décidé. Voilà la résignation. On subit la situation telle qu'elle est, sans chercher Dieu. Sans crier à Dieu, sans demander l'aide de Dieu, sans se repentir, sans demander même en disant, Seigneur, je n'ai pas compris. Quelle est ta volonté dans cette situation? C'est ça la réaction que le Seigneur attend de nous. Mais malheureusement, beaucoup marchent la tête courbée. Beaucoup marchent. Ils ont les promesses de Dieu, ils ont parfois des grosses Bibles. Mais il n'y a plus la foi. Ils vivent une vie chrétienne de résignation où on dit, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions chercher sa volonté. Même lorsque nous avons mal fait, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Même s'il y a des conséquences à ce que nous avons fait de mal, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre dans une relation d'amour. C'est cela. Et la différence avec la résignation, c'est l'acceptation. Et un exemple, c'est l'exemple de David. Lorsque Nathan vient voir David pour le reprendre par rapport au péché qu'il a commis. Et Nathan dit à David, puisque tu as désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu frappera ta maison. L'épée ne sortira pas. Et qu'est-ce qui se passe après? Il est écrit que le fils de David est tombé sérieusement malade. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? David priait. David se couchait à terre. Les anciens d'Israël viennent voir David pour dire, mais maître, mais pourquoi tu fais cela? Il dit, tel que je suis, je m'humilie devant Dieu, afin qu'il ait peut-être pitié de moi. Et 7 jours après, la Bible dit que son enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient avec David ont peur d'aller voir David pour lui dire, ton enfant est mort. Ils se disent, mais tant que l'enfant était encore en vie, il ne mangeait pas, il était triste, il jeûnait, il priait. Mais maintenant que l'enfant est mort, comment va-t-il réagir? Ils vont voir David, ils lui disent, l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave, il demande à manger un bon repas. Et les gens viennent le voir pour lui dire, mais explique-nous, qu'est-ce que tu fais? L'enfant est encore vivant, tu es triste, tu pleures, tu pries, tu jeûnes, l'enfant meurt, tu fêtes. David a accepté la décision de Dieu. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté les bras croisés. Il a prié pour chercher la volonté de Dieu. Il a prié pour que Dieu fasse grâce. Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, non, ma décision est prise. L'enfant mourra. Et à ce moment-là, David a accepté. L'acceptation, c'est quoi? C'est qu'on considère la souveraineté de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dans le malheur qui m'arrive, je sais que Dieu m'aime. Alors si ce malheur m'est arrivé, soit c'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui ai péché, c'était le cas de David. Ou alors, même si je pense être irréprochable, Dieu ne se trompe jamais. C'est ça l'acceptation. Et dans cette attitude-là, même dans la souffrance, on garde la foi en Dieu. On considère que Dieu est amour. Alors que la résignation, c'est comme si Dieu est méchant, comme Élie. Que Dieu fasse comme il a décidé, comme il est fort, c'est le plus grand. La raison du plus fort est toujours la meilleure, qu'il fasse. Mais l'acceptation, c'est le fait qu'on considère que ce qui m'arrive, j'ai prié, j'ai demandé la volonté de Dieu, j'ai jeûné, je fais ce que moi je pouvais faire en tant qu'humain, j'ai adoré le Seigneur malgré tout. La situation est arrivée, alors Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. C'est cela. C'est ça l'acceptation. On n'a pas toutes les explications, mais on sait que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Et c'est ce que David fait. Les gens disent, mais il est devenu fou. Non. David aimait Dieu. David connaissait Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de reprendre son fils, David a accepté cela. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la résignation. On subit le coup du sort. C'est comme ça. Et là viennent les pensées pour te dire, mais depuis que tu pries, tu as toujours des problèmes. Tu as toujours la main sur la joue. Où est Dieu? Malheureusement, beaucoup se sont résignés. C'est comme s'il n'y a plus rien à faire. On demande, mais est-ce que tu as prié pour la situation? Il dit, ah. Donc on voit que dans l'attitude de la personne ne pense même plus à prier. Malheureusement. Et cette attitude-là va conduire à sortir de la voie de Dieu. Malheureusement. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la résignation, que nous puissions avoir confiance en son amour. Alors, un premier point, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas demeurer, à ne pas rester résigné, comme cet homme dans Jean 5. Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est de nous rappeler les promesses de Dieu, de nous rappeler l'amour de Dieu. Je pense qu'on connaît le témoignage qu'on nous a souvent raconté de Nick Vujicic. C'est un chrétien sans jambes ni bras, et il raconte son témoignage. Et c'est l'exemple de l'acceptation de la volonté de Dieu. Il dit, lorsqu'il est né, lorsqu'il a été sorti, son père a vu qu'il n'y avait pas de bras. Et il dit qu'il espérait, le père espérait que la maman n'ait pas vu cela. Et il est sorti, il a failli faire un malaise, il est sorti de la salle. Et il revient voir le médecin en disant, mais docteur, j'ai vu que mon enfant n'a pas un bras. Le docteur lui dit, non seulement il n'a pas un bras, il n'a aucun bras, il n'a pas de jambes. Et les parents étaient chrétiens. Alors dans l'assemblée, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Dieu a pu faire cela? Pourquoi Dieu a pu faire cela? Et il parle maintenant de lui en disant, il a grandi avec ça. Il a grandi avec une colère, une amertume envers Dieu. Il disait, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as donné moins que les autres? Moins que les autres enfants de mon âge? Et il dit à Dieu, il dit, Dieu, je sais que, quoi qu'il arrive, je serai obligé de me soumettre à toi. Il dit, mais je veux te poser une question. Dis-moi, pourquoi tu as permis que je sois comme ça? Pourquoi? Il dit à Dieu, si tu n'abrèges pas mes souffrances, eh ben moi, je vais me tuer moi-même. Il dit à ses parents de lui préparer un bain pour se relaxer. Et son objectif, c'était de rentrer dans l'eau à 8 ans et de se suicider. Et quand il a voulu se retourner dans l'eau, il a pensé à ses parents. Il a dit, il y a une chose qui m'a retenu, c'est que j'aimais mes parents. J'aime mes parents. Mes parents m'ont aimé et même tel que je suis, même si je peux être entre guillemets une charge pour eux, ils m'aiment comme ça. Il dit, à cause de cela, je ne suis pas passé à l'acte. Mais il continue à poser des questions à Dieu, à dire, Dieu, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Et là, il raconte que sa mère lui montre le témoignage d'un chrétien très paralysé. Et il voit ce témoignage-là. Alors il dit, j'étais partagé. Lorsque je vois cet homme-là, je suis partagé entre la colère de ce qui me manque comme membre, mais en même temps, la joie de voir qu'il y a des gens qui sont aussi dans des situations plus difficiles que moi. Mais malgré tout, il est en colère vis-à-vis de Dieu. Et là, il tombe sur Jean au chapitre 9, l'aveugle né, où les disciples posent la question à Jésus, « Mais maître, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ?» Le Seigneur dit, ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas lui, c'est une seule chose. Dieu a permis ça pour manifester sa gloire. Et là, il comprend, il dit, ah, voilà. Dieu lui parle. Il comprend que sa situation, Dieu a permis cela. Dieu a permis qu'il soit né tel qu'il est, sans jambes, sans bras, pour manifester sa gloire. Et là, le Seigneur lui répond. Parce qu'il continue à poser la question à Dieu, mais pourquoi ? Le Seigneur lui répond, est-ce que tu me fais confiance? Me fais-tu confiance? Il dit, Seigneur. Il dit, j'ai compris. Et il dit, à partir de ce jour-là, il a compris que même si il ne vivait pas les miracles dans sa vie, lui était un miracle pour la conversion des autres. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Même s'il ne vivait pas les miracles, que les bras poussent, que les jambes poussent, que dans son état, et c'est ce qu'il dit, hein, il dit, Dieu peut nous guérir sans changer nos situations, notre circonstance. Donc on reste dans la même situation, mais on est guéri. Il dit, à quoi ça sert d'être bien, normal, entre guillemets, alors qu'à l'intérieur on est détruit? Il dit, Seigneur, je préfère encore être tel que je suis là, mais dans mon cœur, recevoir ton amour, être guéri par ton amour. C'est ça qu'il dit. Je préfère cela. Même si je ne vis pas le miracle serait que dans mon état, j'aille dans les prisons, que je parle de l'amour de Dieu. que j'aille de pays en pays parler de l'amour de Dieu. C'est ça un exemple d'acceptation de la volonté de Dieu. Il ne s'est pas résigné en disant, bon, c'est comme ça, Dieu, bon, il a fait, bon, et vivre avec ça. Non. Il y a eu un travail dans son cœur, il a accepté la situation. Mais comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas accepter de manière naïve en disant, bon, c'est comme ça, c'est... Non. Il a prié, il a demandé à Dieu, pourquoi? Et comme on a dit tout à l'heure, on peut poser la question à Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Ou alors, Dieu peut nous répondre, mais la réponse ne sera pas forcément ce qu'on attend. On se rappelle dans 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul dit, à plusieurs reprises, trois fois j'ai prié, à cause de l'écharpe que j'avais, le Seigneur m'a dit quoi? Ma grâce te suffit. Il dit, j'ai prié. S'il fallait prier pendant un certain temps, eh bien, je fais ce qu'il fallait faire. Mais la réponse du Seigneur a été, ma grâce te suffit. Voilà. Mais il a prié. Le problème qu'il avait le dérangeait, il a prié. Et le Seigneur a donné une réponse. Peut-être qu'il s'attendait à une autre réponse. Mais le Seigneur a quand même répondu. C'est ça que nous sommes en train de dire. La résignation, c'est être dans une situation où on ne prie même plus. On se dit, ah, j'ai tellement prié. J'ai tellement demandé à Dieu. Je n'ai pas vu. Et là, on vit avec l'amertume dans le cœur. On vit avec la tristesse dans le cœur. On vit avec la peine dans le cœur. Et cette attitude n'est pas bonne. Le Seigneur veut nous ranimer. Il veut que le Saint-Esprit nous ranime comme il a ranimé Jacob. Il veut nous ranimer aujourd'hui. Nous dire, même si tu penses que ce n'est pas possible, mais crois au moins à ma justice. Crois au moins en mon amour, c'est cela. Alors sortons de la résignation, du fatalisme. La Bible dit que le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est cela. Et celui qui accepte une situation, c'est celui qui a foi que dans cette situation-là, Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça la différence entre la résignation et le fait d'accepter ce que Dieu permet dans nos vies. Et on continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur te dise, bon, voilà, c'est assez. Mais il y a des gens, ils prient pour des situations, ils ne voient pas de changement, ils ne voient rien. Eh bien, ils arrêtent de prier. Et après, ils se plaignent après Dieu. Mais est-ce que Dieu a dit d'arrêter? Si c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter, que Dieu soit béni. Mais si ce n'est pas lui, qu'est-ce qui nous empêche de prier? Qu'est-ce qui nous empêche de demander de l'aide dans la prière? Qu'est-ce qui nous empêche? Rien du tout. Et lorsqu'on reste dans la résignation, eh bien on ne prie même plus. Alors comment sortir de la résignation? Nous allons lire un passage dans Marc au chapitre 5. Marc 5. Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. Marc 5, 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une autre grande foule le suivait et le pressait. Et nous pouvons aller au verset 32. Non, au verset 35. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Voilà, c'est l'histoire de Jaïrus. Et cet homme avait une fille qui était malade. Et il vient vers Jésus. Il dit, « Seigneur, fais quelque chose, ma fille souffre. » Et pendant qu'il parle avec Jésus, les gens viennent de chez lui pour lui dire, « Pourquoi tu embêtes le maître? Laisse le maître tranquille. Ta fille est déjà morte. Laisse Jésus tranquille. » On a parlé de la résignation, sortir de la résignation. Voilà des voix comme ça qui viennent pour te dire, « Mais pourquoi tu pries? Mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu persévères? Mais ça ne sert à rien. Mais la situation est déjà clôturée, c'est fini. Mais il n'y a plus rien à faire. C'est fini. » Et la Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ce que ces gens disaient, il dit, « Ne t'inquiète pas, ne crains pas. Crois seulement, ta fille sera sauvée. » Bien souvent, il nous arrive lorsque on va... J'ai écouté le témoignage d'une personne qui disait qu'il avait été diagnostiqué avec une tumeur à l'intestin. Et il dit, le jour où il a reçu cette nouvelle, il a appris cette nouvelle-là, ben il est parti vérifier sur Internet. Il est allé à gauche, à droite pour chercher, pour savoir ce qui allait lui arriver. Et le médecin lui dit, il faut qu'on t'opère parce que si on ne t'opère pas dans 3 mois, tu n'es plus là. Dans 3 mois, tu n'es plus là. Et sa mère lui dit, je connais un pasteur. Si ce pasteur-là prie pour toi, Dieu peut faire. Parce que cet homme était païen. C'était un païen. Sa mère lui dit, va voir ce pasteur-là. Parle avec lui. Explique ton problème. Et ce que tu as à faire d'abord, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et Dieu utilisa cet homme-là. Et il dit, la parole que ce médecin m'a dit avait tellement une puissance que parce que depuis petit, il a entendu sa mère, il a été à l'école du dimanche, il a été dans toutes ces choses-là. Mais la parole de ce que cet homme-là lui a dit était tellement puissante, tellement forte, que tout ce qu'on lui disait autour ne valait plus rien. On lui parle du Seigneur, mais ça rentre ici, ça sort là. Il était comme anesthésié. Mais c'est étonnant parce que c'est ce qui nous arrive aussi. Tu vas à l'école, la maîtresse qui te dit, bon, ton enfant... le niveau, ce n'est pas ça. Et là, tout de suite, la réaction, c'est quoi? On commence à paniquer. Mais qu'est-ce qu'on... Non! Ça, c'est ce que lui, en tant qu'humain, en tant que spécialiste, c'est ce qu'il t'a dit, c'est ce que lui, il voit. Mais nous, on a un spécialiste qui est au-dessus de tout cela, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, on met en doute la parole qui dit que Dieu a tout créé et la parole d'un homme qui demain, parce que les mêmes hommes là qui te disent ça, quand il va refaire l'examen, il va dire, mais je ne comprends plus rien. Mais en tant qu'humain, la parole que le médecin te dit, ou alors le rapport qu'il te sort, on tremble devant ça. On tremble. On n'a plus la foi en Dieu. Ces gens viennent voir Jaïrus pour lui dire, c'est fini, laisse tomber. Laisse tomber. Mais Jésus lui demande, mais est-ce que tu préfères écouter, croire les paroles que ces hommes disent, ou alors tu préfères entendre ce que moi je te dis de ne pas craindre? Amen. Qu'est-ce que nous préférons? C'est une question de choix. Est-ce que je préfère écouter les paroles que les hommes disent? Ah là, tu peux écouter, tu vas t'en rendre malade. Parce que là-dessus, parfois, il y a même des médecins qui ne prennent pas des gants. Ah oui, il va droit au but. Voilà. Il va droit au but. Il n'a pas le temps. Alors, tu préfères écouter ça ou tu préfères écouter ce que Dieu dit? Et c'est ce que cet homme l'a témoigné. Il disait, la parole de ce médecin, parce que c'est un homme qui a fait beaucoup d'études, des grandes études, qui cherche à réfléchir. Il dit, je suis allé sur Internet pour vérifier. Il a ses amis qui sont médecins. Il est allé faire des recherches pour voir par rapport à sa maladie, est-ce qu'il doit se faire opérer, est-ce qu'il ne doit pas se faire opérer, est-ce que finalement, le temps passé, il a décidé d'aller voir le pasteur. Donc le pasteur a prié pour lui. Le pasteur a parlé du Seigneur. Il a dit, bon, là, tel que je suis, de toutes les façons, dans tous les cas, je veux mourir dans 3 mois. Alors bon, je veux suivre quand même Jésus pour voir. Dans tous les cas, si je ne vais pas vers le Seigneur, je suis déjà condamné ici. Et le pasteur a prié pour lui. Il va pour faire ses examens tels qu'il fait d'habitude. Le médecin se rend compte qu'il y a des changements, il y a l'amélioration dans son état. Et là, le médecin est étonné. Et c'est là qu'il dit que j'avais donné beaucoup d'importance à la parole d'un homme. J'ai entendu parler de Jésus. J'étais à l'école du dimanche, j'ai grandi avec ça. Ma mère m'a toujours parlé de ça, mais je n'avais que faire. Je n'avais pas le temps de ces choses-là, de croire en Dieu. Et Dieu a permis ça pour briser son orgueil. Dieu a permis ça pour le rencontrer. Dieu a permis cette situation-là pour qu'il puisse s'humilier, se rendre compte que ses diplômes, que tout ce qu'il avait comme bagage devant la maladie maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Là, le compte à rebours est lancé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il dit, je ne pensais pas que ce qui est écrit dans la Bible, je ne pensais pas que toutes les promesses qui sont dans la Bible concernent aussi mon cas, ma situation. Il dit, maintenant, je vais suivre la parole de Dieu parce que les promesses qui sont dedans sont les miennes. C'est cela. C'est cela. Alors, est-ce qu'on préfère suivre la parole qu'un spécialiste, aussi imminent soit-il? Ou est-ce qu'on préfère suivre la parole de Dieu, ce que Dieu dit? Dans tous les cas, ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. La Bible dit que toute chose passera, la terre passera, tout ce qui est dans la terre, les hommes, les rois, tous y passeront. Mais la parole de Dieu subsistera éternellement. La parole de Dieu va subsister. Alors choisissons d'écouter la parole de Dieu. Choisissons de suivre la parole de Dieu. Choisissons de mettre confiance en la parole de Dieu. Parce que si on écoute notre chair, si on écoute les hommes, eh ben on sera toujours dans la résignation, dans la tristesse. On sera toujours dans la tristesse. Et c'est ce que cet homme, Nick, dit. Il dit, finalement, j'ai compris que ce qui est écrit, ce sont des promesses qui sont pour moi. Il dit, lui-même il évoque ça, il dit, dans Jean 8, 32, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il explique ce passage. Et il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire, dans son état là, il a entendu tellement de choses, sans bras, sans jambes. Ah bah tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas avoir d'enfant, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas... Il dit, il a entendu toutes ces choses là, toutes ces choses. Mais quand il a lu la parole de Dieu, il a compris que finalement, la vérité, ce n'est pas ce que les gens disent. La vérité, c'est ce que Dieu dit de lui. Et il dit, à partir de ce moment-là, on me dit, Nick, tu es ceci, tu es cela. Je dis, non, moi, je suis enfant de Dieu. C'est ça mon identité. C'est ça la vérité. Moi, mon identité, à moi, c'est ce que dit la parole. Que dit la parole? Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que dit la parole? Ésaïe 31 qui dit que même si tu es fatigué, eh ben, Dieu te donne de forces nouvelles et tu voles comme un aigle. Il dit, je n'ai pas de jambes, je n'ai pas de bras, mais la parole de Dieu me dit qu'avec Dieu, je peux voler comme un aigle. C'est ça, c'est une question de choix. Il dit, lorsque j'ai compris la vérité, eh ben, j'ai été libéré. Lorsque j'ai compris ce qui est écrit dans la Bible, j'ai été libéré du jugement des autres. Toi, tu es toujours si. Toi, on t'a toujours dit, toi. Toutes les malédictions, il dit que tout cela n'a plus d'effet dans ma vie parce que moi, je suis ce que dit la Bible et je sers Dieu. Il dit à quoi ça sert d'être en bonne santé, en bon état, entre guillemets, sur la terre et aller en enfer après. Je préfère être tel que je suis dans cette parenthèse de la terre, mais je vivrai avec le Seigneur. Voilà Mais entre-temps, les promesses qui sont dans la Bible, ce sont mes promesses à moi. Alors comment sortir de la résignation? C'est en lisant les promesses du Seigneur, en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, le diable sait qu'en attaquant la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque d'abord Dieu, mais en attaquant aussi la parole de Dieu, il attaque notre foi. La Bible dit que la foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc en s'attaquant à la parole de Dieu, le diable va s'attaquer à nous pour te dire, n'est-ce pas qu'il est écrit? Mais regarde ce que toi tu vis, est-ce que c'est cela? On se rappelle ce qu'il a fait au jardin d'Éden en venant voir Ève pour lui dire, Dieu a-t-il dit? Son but, c'était de déformer la parole. Une fois que la parole n'est plus, une fois que la parole est déformée, alors là, il peut agir. Et là, sur quoi on va se reposer? Parce que notre foi, elle vient de la parole. Mais une fois qu'on ne croit plus en la parole, eh bien c'est fini. C'est fini. C'est fini, les promesses de Dieu, c'est fini, on n'en veut plus. Il y a des gens à qui on parle, on dit « Ah oui, je sais ». Il y a des gens qui étaient peut-être chrétiens autrefois, mais aujourd'hui qui sont devenus païens, ils sont devenus spécialistes pour contredire. Tu lui donnes un verset, il a des contre-attaques. Il ne croit plus, malheureusement. Malheureusement. Or, nous avons les promesses de Dieu. Nous avons la Bible. Le Seigneur dit à Jaïrus, qu'est-ce que tu veux? Tu préfères entendre ce que moi je te dis ou tu préfères entendre ce qu'eux ils te disent? Ben alors écoute ce que je te dis, ne crains pas. Crois seulement. Et c'est ce que Jaïrus a fait. Il a cru. Il a cru. C'est cela. Sortons de la résignation. Peu importe ce qu'on t'a dit. Peu importe ce que toi-même tu penses. Tu as prié par rapport à un péché, tu retombes dans le même péché, tu dis « Ah !» Tu vis comme une forme de colère, tu vis. Le Seigneur te dit qu'il est tout puissant pour te libérer. Il suffit d'accepter de croire. Il suffit d'accepter. Il suffit d'accepter cela, de dire « Seigneur, ta parole, je veux la vivre. » C'est cela. Malheureusement, on préfère écouter ce qu'on nous dit à gauche. On préfère écouter ce qu'on nous dit à droite. Un spécialiste. Ah, tel lui, quand il parle, c'est avec exactitude. Ah, mais c'est son problème. C'est son problème. La véritable exactitude, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. David dit, oh, je te bénis, Éternel, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Voilà, c'est cela. C'est cela. David était un homme qui aimait Dieu. David a péché. Mais David n'a pas remis en cause l'amour que Dieu avait pour lui. Pour sa parole, David s'est attaché à cela. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Et lorsqu'on ne fait pas ça, on va tomber dans la résignation. On va vivre des choses en disant, bon, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Non, c'est faux. C'est faux. Même si Dieu a décidé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut prier. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, dans Philippiens 4, 6, il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous inquiétez pas. Priez, parlez à Dieu, dites à Dieu quels sont les besoins. Et Dieu lui donnera sa réponse. On ne dit pas dans ce verset-là qu'il va nous donner ce que nous cherchons. Et il dit que Dieu va nous donner sa réponse, c'est la paix en Christ. Voilà. À partir du moment où il y a la paix, quand Dieu dit maintenant, c'est positif par rapport à ce que tu as demandé, on dit que ton nom soit béni. Quand il dit non par rapport à ce que tu as demandé, tu acceptes, tu es dans l'acceptation, tu dis bon Seigneur, tu ne veux pas parce que tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Et c'est ce que ce frère Lannick dit. Il dit, Seigneur, on lui pose la question, mais maintenant si le Seigneur te donner les bras, les jambes, il dit non. Moi, personnellement, je n'en veux plus parce que j'ai compris que dans l'état où je suis, eh bien, Dieu m'utilise plus efficacement que si j'étais comme tous les autres. Dans l'état où je suis, Dieu m'utilise plus efficacement. C'est cela. Mais le plus important, c'est que Nous sommes conscients de l'amour de Dieu pour nous. Voilà. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Nous lisons un passage. Dans Lamentations 3. Lamentations, chapitre 3. À partir du verset 19. Donc c'est Jérémie qui parle et il exprime la douleur qu'il vit, il dit qu'il vit une souffrance qui est tellement forte qu'il commence à perdre même l'espérance en Dieu. Et nous arrivons au verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est ce qui me donnera l'espérance. Amen. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Quelqu'un qui est résigné, qu'est-ce qui repasse dans son cœur? C'est la tristesse, c'est l'amertume. C'est le sentiment d'injustice. C'est le sentiment que, bon, c'est comme ça, Dieu a décidé. Mais Jérémie dit, dans la détresse que je vis, dans la souffrance, voilà ce que je décide de repasser dans mon cœur. Il dit, les bontés de l'Éternel. Nous continuons la lecture. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en l'Éternel, en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. On peut continuer encore la lecture jusqu'à plus bas. Voilà. Jérémie a vécu une situation qui aurait pu lui dire, ben finalement, Dieu m'a abandonné parce que lui-même, il dit, j'ai perdu toute la force que j'avais à entendre ce que j'entends, à voir ce que je vois. C'est comme si Dieu m'a abandonné. C'est comme si je n'étais plus serviteur de Dieu. Mais il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Mais ce qui repasse dans le cœur, là, c'est quoi? Ce ne sont pas des choses que Jérémie a inventées, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jérémie connaît de Dieu. C'est ce que Jérémie sait. De Dieu, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais non seulement elles ne sont pas épuisées, mais chaque jour, elles se renouvellent. Même si moi je ne vois pas, les bontés de Dieu se renouvellent. C'est ça. Alors la question que nous nous posons ce soir, c'est que qu'est-ce que nous voulons repasser dans nos cœurs? Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé ceci ou cela à Dieu. Peut-être que tu as vu le contraire de ce que tu attendais. Eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Bon, Dieu m'a oublié. Dieu bénit les autres. Et pas moi. Dieu fait du favoritisme. Qu'est-ce que tu choisis de passer dans ton cœur? Jérémie dit non. Moi, ce que je choisis de repasser, c'est que Dieu est bon. C'est que ses bontés se renouvellent. Il dit, oh, il est bon d'espérer en l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais quand il dit attendre en silence, c'est une attitude, on attend, mais on s'attend à Dieu en même temps. Ce n'est pas on attend, mais en boudant, en disant, ah, non. J'attends, je m'attends à Dieu, ça peut prendre un temps, parce qu'il dit, je m'attends, j'ai l'espérance en Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce que je demande peut prendre beaucoup de temps, mais entre-temps, pendant ce temps-là, Dieu est en train de me travailler aussi. Et j'ai l'attitude qui convient. Laquelle? L'attitude de foi. L'attitude de prière, l'attitude de confiance en Dieu, l'attitude de lire la parole, de méditer la parole de Dieu. Le Seigneur dira, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera ces choses. Tout ce que je vous ai dit. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne médite pas la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous rappeler? Ce ne sera pas le Saint-Esprit, ce sera la chair qui va te rappeler pour te dire, regarde, ta situation n'a pas changé. Ce sera le diable qui va te rappeler pour te dire, regarde, tu es chrétien, mais regarde ce que tu vis. Comme il a voulu faire avec notre Seigneur Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais change la situation, change ceci, change cela, si tu es chrétien. Mais quand on connaît la parole, quand on la repasse, lorsque ces pensées-là viennent, eh ben on résiste. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, il dit de prendre les armes de Dieu. Pourquoi ? Pour lutter dans les mauvais jours. Il y aura des mauvais jours qui viendront. Et dans toutes ces armes dont il parle, ces armes sont connectées entre elles. La foi, la parole, toutes ces armes-là sont ensemble. Mais il dit pourquoi ? Pour lutter dans les mauvais jours. Il y aura des jours où on a l'impression que là, Dieu est loin. Je ne comprends pas. Mais pendant ce temps-là, notre carburant, c'est la parole de Dieu. Je ne vois pas, mais je crois. Il est écrit, Seigneur, dans Actes 16, 31, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je prie et je crois que tu es tout-puissant pour sauver ma famille. Voilà, on sort les promesses de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui dit, il dit, mais pourquoi tu promènes dans Ésaïe 41 des regards inquiets, mais plaide de toi-même. Parle pour te justifier. Mais on parle avec quoi? On parle avec la parole de Dieu. On sort la parole de Dieu. On sort les promesses de Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que ta parole dit. Voilà ce que ta parole dit. Voilà les promesses de ta parole, Seigneur. On dit cela à Dieu. Et lorsqu'on est dans cette attitude-là, Dieu va nous répondre. Dieu va nous dire ce qu'il faut faire. Peut-être que la réponse que le Seigneur nous donnera, ce n'est pas celle qu'on attend, mais puisqu'on est dans cette attitude-là, Dieu va se manifester d'une façon ou d'une autre. C'est cela. C'est cela. Alors qu'est-ce que nous choisissons de repasser? Est-ce que nous choisissons de ruminer une parole qu'un tel ou un tel m'a dit, a sorti sur moi? Ou est-ce que je choisis de repasser la parole de Dieu? C'est ça la question. Comment sortir de la résignation? C'est en ayant une attitude de foi. C'est la foi. C'est la foi en Dieu. C'est cela. Et lorsqu'on dit foi, on parle aussi de la prière, parce que quelqu'un ne peut pas prier s'il n'a pas foi en Dieu, sinon ce n'est pas une prière. C'est des paroles, c'est une perte de temps même, je dirais. La foi véritable va te pousser à t'exprimer, à parler, comme le Seigneur dit dans Luc 18. Cette femme qui avait affaire au juge, pendant longtemps, le juge a refusé de faire justice, mais elle a persévéré. Et c'est ça même l'enseignement de ce passage, cette parabole, c'est que c'est écrit que le Seigneur nous apprend à prier avec persévérance. Elle a persévéré jusqu'au bout. Et finalement, le juge qui était mauvais, qui n'avait d'égard pour personne, a fait justice. Et le Seigneur dit, regardez un homme qui est méchant, parce que c'est écrit déjà qu'il est décrit comme étant méchant. Il dit, mais regardez un homme qui est méchant, qui arrive à faire justice en faveur de cette femme. Alors, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Cette femme aurait pu se résigner en disant, eh ben, je suis seul, je n'ai personne pour me défendre. Voilà que je me déplace. On ne sait pas à combien de kilomètres se trouvait le tribunal où se trouvait ce juge-là. Ce n'est pas comme ici, on a des métros, on a le bus, on ne sait pas comment. Mais elle y allait régulièrement, régulièrement elle allait. Peut-être que les gens lui disaient, mais tu perds ton temps, est-ce que tu penses que ce juge-là a le temps de s'occuper de ton problème? Ce n'était pas son problème à elle. Elle, son problème, c'est qu'au fond d'elle, elle savait que Dieu allait faire justice, que le juge était placé là comme une autorité de Dieu et qu'en qualité d'autorité de juge, il ferait justice. Voilà. Quand, on ne sait pas, mais elle a persévéré. Et le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et il peut arriver qu'on vive des situations qui ont duré, qu'on vive des situations qui nous font souffrir. Et là, on n'espère même plus à la délivrance. C'est là que le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans le passage de Marc 5, qu'on a lu, on n'a pas lu l'histoire de cette femme. Il est écrit que pendant 12 ans, elle était malade. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais dans ce passage de Marc 5, il est écrit, elle se disait au fond d'elle, « Si seulement je peux m'approcher, toucher Jésus, je serai guéri. » Voilà. Elle ne s'est pas dit, où était Dieu lorsque j'ai dépensé, lorsque j'ai vu le premier médecin, lorsque j'ai vu le deuxième médecin, lorsque j'ai vu le troisième? Où était Dieu lorsque j'ai tout dépensé? Où était... Non. Elle a persévéré. Elle s'est dit, si je m'approche du Seigneur, je serai guéri. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la résignation. Où on pense que les choses sont écrites, c'est ainsi. Si les choses sont écrites, c'est ainsi, Dieu nous le dira. D'une manière ou d'une autre, je ne dis pas forcément par un songe, par une vision, mais si on est sincère avec Dieu, Dieu mettra la conviction dans ton cœur. Ou il te parlera même par quelqu'un pour te dire, cette situation-là, Dieu a dit que c'est comme ça, voilà. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais sortons de la résignation. La résignation conduit à la perte de foi. La résignation conduit à accuser Dieu, à considérer que Dieu est injuste. Et ce n'est pas le cas. Dieu est bon. Dieu nous aime. Amen. Que le Seigneur nous aide.